Le deuxième jour, certains maîtres prêchent toute leur vie, d'autres quelques années, et Baffon dut se contenter de quelques minutes pour tenter d'expliquer à un seul témoin son étrange vision du paradis perdu. Des sifflements d'engins volants se firent entendre au-dessus des ruines de Jérusalem. C'étaient les flèches d'argent de l'armée américaine, ou peut-être même celles des autres nations, car ce genre de missiles pouvait être acheté par des pays européens pour $1 milliard. Alors que la foule courait dans les décombres sans trouver un endroit où se réfugier, un vieil homme demeurait assis, dos au mur, pour peindre une petite toupie en bleu. Il trempait son doigt dans un vieux récipient afin de gratter les restes de peinture. Baffon l'observa un long moment et finit par venir s'agenouiller devant lui pour le regarder travailler. Le vieillard lui dit sans attendre, « Il y a beaucoup d'agitation autour de nous, mon brave ami. Les gens courent pour retarder la fin de notre belle civilisation. Je pense que je suis trop vieux pour fuir le grand malheur qui nous guette. Ces flèches du ciel ont remplacé celles de Cupidon. » C'est vous qui avez sculpté ces jolies toupies. Ah oui, elle est parfaitement réussie, contrairement à toutes celles que j'ai réalisées autrefois dans ma boutique de jouets. Si tu la veux, je te l'offre volontiers. Il y a sans doute un enfant qui souhaiterait s'en servir, demanda le jeune maître, en souriant. Tu penses, les enfants jouent à la guerre depuis plusieurs années. Je me demande souvent pourquoi je continue à fabriquer des jouets devenus inutiles de nos jours. Vous ne faites rien d'inutile lorsque votre cœur est pacifique. Vous savez que tous les créateurs se posent la même question et réalisent des œuvres destinées à embellir le jardin de l'humanité pour témoigner en faveur de la beauté de la vie. Le vieil homme lui répondit, « Oh oui, je pense qu'on reconnaît les vrais peintres, les sculpteurs, les poètes, les musiciens et les autres artistes, car ils sont généralement les témoins d'un monde invisible. J'ai souvent ressenti la présence d'une source pure qui coulait à travers le monde, sans se tarir, au contact des impuretés terrestres. Certains disent que la muse provient d'un monde purement imaginaire, mais si tel est le cas, pourquoi l'homme est-il incapable de penser sans imaginer? Il passe son temps à vouloir réaliser ses rêves. Que dire d'ailleurs de ces artisans dont l'œuvre représente les cauchemars du peuple? On dira ensuite que les rêveurs manquent de réalisme. Qui sont les rêveurs et les réalistes dans un monde où il faut simplement croire en quelque chose? » Baffon répondit, « Je ne sais vraiment pas s'il faut croire en quelque chose. Si on a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour réfléchir. Réfléchir avec le cœur, mais jeune homme, on réfléchit avec l'esprit. Ah vraiment? D'où croyez-vous que le mot réfléchir prend sa source? Réfléchir peut provenir de réflexion ou de la réflexion de l'âme, qui veut dire refléter son rayonnement intérieur. On dit souvent sur terre que les yeux sont les miroirs de l'âme. D'ailleurs, il est probable que Petit Malin se soit amusé à modifier le sens premier du mot pour le balayer de son essence originelle. Les hommes prétendent qu'il faut croire en soi, en Dieu, en la vie, en la sagesse et en l'amour. Donc, toutes ces croyances sont autant de barrières à la réflexion intérieure, car la réflexion, c'est le réflexe de jouer avec les sons qui font des mots. Par conséquent, l'action contraire de la foi se produit lorsque le cœur cesse de la vérifier ou de la vivifier. En réalité, la foi individuelle se distingue à peine de la volonté de faire. Savoir mettre en pratique notre foi ne veut pas dire la faire valoir, mais simplement la rendre rayonnante. Ce n'est pas ce que l'on croit qui compte, mais ce qui fait grandir l'humanité dans son évolution. Ainsi, si je crois que les chrétiens sont devenus corrompus par Satan, tu vas me dire que je n'ai pas raison. Vous vous servez d'un titre pour résumer le contenu d'un livre rempli de bonnes et mauvaises choses. Si je dis que vous avez raison, que ferez-vous des chrétiens qui vivent selon les recommandations du Christ? que Satan mange sa proie en partie ou en totalité ne changera pas le fait que celle-ci a été corrompue par son venin. Si un chien enragé me mord la main, c'est tout mon corps qui sera contaminé par sa salive. C'est juste une question de temps pour que je meure de sa morsure. » Baffon attendit un moment avant de lui répondre. « Je comprends mieux à présent ce qui anime cette haine entre les peuples, et même l'origine de vos guerres fratricides. Si vous tenez tant à croire que Satan a ce pouvoir d'empoisonner toute une religion en mordant quelques-uns de ses membres, il est probable que tous les descendants d'Adam et Ève ont ce venin du tentateur dans leurs veines. Lorsque Ève accepta de prendre le fruit du serpent corrupteur, elle cessa d'être pure. Lorsqu'elle le présenta à son compagnon, il cessa d'être innocent. Lorsqu'il croqua dans celui-ci, il perdit également cette pureté. Lorsque Ève en mangea, elle cessa d'être également innocente. On pourrait accuser Ève ou Adam d'avoir mangé le fruit défendu, mais le simple fait de l'avoir accepté de Satan, c'est sous la loi du tentateur et du corrupteur que le premier couple succomba. Ève passa sa vie à fuir le serpent qu'elle devait pourtant écraser pour enfin se libérer de l'odeur du fruit corrompu, et de son côté, Adam fut trop faible pour refuser le fruit de la procréation. Car voyez-vous, ce n'est pas Ève ou Adam qui enseigna la façon de procréer, mais l'odeur de la pomme interdite. Vraiment troublé par les propos de Baffon, le vieil homme lui demanda, « Et comment serait apparue l'humanité sans la procréation, mon jeune homme ?»« Mais de la même façon qu'Adam et Ève, vous ne me croyez pas, car dès qu'il est question de laisser la nature suivre son évolution originelle, il faut constamment que l'homme s'en mêle pour se placer entre Dieu et son œuvre. Si je vous dis qu'il a créé l'homme et la femme sans l'intervention des humains, cela vous semble parfaitement acceptable. Mais que j'affirme que l'homme n'avait pas fécondé Ève pour peupler la terre, cela vous semble complètement insensé. Avec quel esprit prenez-vous pour acquis que le destin de l'homme était de procréer? Vos écrits sacrés parlent-ils d'un couple vivant selon la chair, ou plutôt selon l'esprit? Mentionnent-ils que celui-ci s'occupait de ses enfants au paradis terrestre? De quoi parlent les écrits, sinon de dire qu'Adam et Ève étaient comme des dieux dans le jardin terrestre? Où avez-vous pris l'habitude de procréer?
Après le péché d'Adam et Ève, dit le vieillard.
Et voilà. Par conséquent, la procréation fut la conséquence directe d'une faute commise au paradis, et non un acte naturel. Il le devint, évidemment, par instinct de survie, si je peux m'exprimer ainsi. Le plaisir existait avant la procréation, mais le couple jouait comme des enfants innocents. N'est-il pas dit que l'homme et la femme virent leur différence et éprouvèrent de la honte en se voyant nus?
C'est effectivement dit dans les saints écrits.
Baffon ajouta, « Que ce soit de la honte ou de la pudeur n'a aucune importance, puisqu'il s'agit d'une image exprimant la fin d'un état de pureté du couple originel. Ce que je tente de vous faire comprendre, c'est simplement l'origine de tous les maux de l'humanité. Depuis ce jour-là, l'homme s'est toujours demandé s'il était différent de la femme, pour jouir d'elle et pour la conquérir. De son côté, la femme se demande encore si elle est faite différemment de l'homme pour qu'il soit son servant. Vous voyez déjà ce début de conflit entre les deux natures. Vouloir séduire, vouloir prendre, vouloir conquérir, vouloir posséder, vouloir jouir, vouloir se distinguer, vouloir prouver lequel des sexes est le dominant et le dominé. Vous me suivez?
Oui, c'est un peu cela qui arrive.
L'enfant de la lumière enchérit en disant, oui, deux natures en conflit. L'homme et la femme sont l'humanité en miniature. Ils sont instinctivement dualistes, donc il fallait tout de même un état de conscience et d'intelligence pour se différencier de l'animal, sinon Adam et Ève auraient été au même niveau que celui de la bête. Depuis la perte du paradis, les humains n'ont pas su équilibrer ce rapport entre l'homme et la femme. En procréant, ils ont simplement multiplié leurs faiblesses et leurs erreurs. Dieu donna des lois aux fautifs pour les préserver de la mort de la conscience. Toutefois, celles-ci furent malheureusement admises comme des morales inefficaces pour rendre la nature humaine meilleure. La haine, l'intolérance, le jugement, la répression, la loi dogmatique et la peur devinrent les armes favorites des religions. Elles oublièrent qu'elles incitaient constamment les hommes à se détester entre eux pour de simples visions spirituelles. À vrai dire, peu importe de savoir qui avait tort ou raison, car la foi inculquée aux fidèles tournait inévitablement autour du privilège des élus. Pourtant, qui sait combien de générations se succédèrent sur Terre pour finalement poursuivre la même erreur en grossissant sans cesse le nombre de Caïn et Abel. Adam et Ève ne pouvaient s'attendre à harmoniser le comportement fraternel de leur descendance puisqu'ils perdirent justement cet état d'esprit en quittant le paradis terrestre. Ce ne sont pas des enfants qu'ils devaient mettre au monde, mais apprendre à régénérer leur nature divine en travaillant à la sueur de leur front. Cela veut dire simplement regagner le paradis en apprenant péniblement à ne rien comprendre. Il faut être comme des enfants et non ressembler au tentateur qui veut comprendre pour être l'égal du Créateur. Selon toi, lui demanda le vieillard, nous subissons les conséquences de la procréation qui serait finalement contre nature. Le mot est vite dit. Voyez-vous-même ce que vos écrits disent au sujet des premiers enfants du couple chassés du paradis. Caïn et Abel furent ennemis à cause de la dualité naturelle entre leurs parents. Caïn et Abel représentent les héritiers de la chute de l'homme dégénéré. Si vous préférez les imaginer autrement, demandez-vous si Caïn est différent du fils égoïste, vaniteux dans son corps, aussi noir que le corbeau, et bête comme ce chien qui mord constamment celui qui lui tend la main. Existe-t-il une différence entre ce Caïn biblique et cette noirceur de l'être intérieur? Ne représente-t-il pas le fruit de cette nature fautive en dehors du paradis? Il est l'acquisition du caractère dualiste de nos premiers parents. Abel personnifie l'offrande. Depuis le début de la procréation, l'humanité ne cesse d'offrir le sang du juste et du pacifique. Baphon baissa les yeux en sachant fort bien qu'il serait lui aussi assassiné comme le furent tous les Abel depuis des millénaires. S'étant assis devant le vieillard, l'enfant de la lumière reprit ainsi. Une nature dualiste ne peut engendrer l'harmonie. Le fruit de la procréation s'est multiplié pour accomplir au niveau planétaire ce que Caïn transportait dans ses veines. Adam et Ève étaient devenus des ennemis naturels et leurs enfants héritèrent simplement de leurs nouvelles conditions humaines. Savez-vous ce que signifie se faire chasser du paradis? C'est perdre le droit de comprendre sans devoir apprendre. Au paradis, les animaux obéissaient au couple, puisque la nature même de celui-ci était divine. Tout de même, mon jeune homme, Dieu n'a jamais condamné la procréation. Oh, je me demande si le déluge ne fut pas la conséquence de celle-ci. Les hommes étaient devenus corrompus. Le sont-ils moins depuis le déluge? Pourtant, Dieu promit de ne jamais faire disparaître l'humanité dans un autre déluge. Il le fera par le feu. Toutes vos armes atomiques sont impuissantes contre ce feu divin qui vaincra finalement la nature de l'homme. Il va répandre son feu sur terre, n'est-ce pas? Mais pourquoi brûler la terre, lorsque c'est le cœur de l'humanité qui est malade? Le temps est venu de passer à votre éveil. Ensuite, vous ne pourrez jamais demeurer dans la noirceur de vos préjugés et de vos illusions. Oh, mais ça, mon jeune homme, le monde sera détruit avant cela, répondit le vieillard en pleurant. Non, soyez patient et sage, car l'homme ne peut détruire l'œuvre. Il jette par terre tout ce qu'il a inventé au cours des siècles, et tue ses semblables en s'imaginant pouvoir défier son Créateur. Vous ne voyez pas que c'est le mal dans l'homme qui est sur le point de crever, comme cet abcès qui aura grossi jusqu'à ce qu'il devienne très mûr. Croyez-vous que le divin pouvait se tromper en se disant satisfait de son œuvre? Jugez-vous la maturité d'un sage par ce qu'il a finalement compris, ou bien par ses nombreuses maladresses de jeunesse? Croyez-vous qu'un seul homme puisse décider de l'œuvre établie depuis le commencement des temps par celui qui l'a ordonné? Au paradis, Adam était comme cet enfant qui s'amusait à donner des noms aux animaux, et Dieu ordonnait qu'il en soit ainsi. Comprenez-vous ce que cela veut dire exactement? Dieu ordonnait. Si vous avez conscience d'une volonté créatrice en vous, allez-vous prétendre qu'elle est en dehors de votre nature? Si je vous dis que l'intouchable, l'inconnaissable, l'inexplicable vous habite, comment ferez-vous pour le décrire? Vous le ressentirez intensément sans pour autant comprendre sa nature. C'est comme ce mur invisible que vous ne pouvez voir et encore moins franchir, puisqu'il entoure votre nature. L'homme a été créé pour aimer tout ce que son Créateur lui confia et pour glorifier l'inconnu qu'il a fait exister. L'homme n'a jamais été mis sur terre pour poser des questions. Il devait donner des noms aux espèces qui l'entourent, afin que Dieu se reconnaisse partout. Cela veut dire que si Adam et Ève voulaient apprendre à voir leur Créateur, ils devaient simplement l'identifier à tout ce qui porte un nom. Comme Dieu ne pouvait être vu et compris dans son essence, c'est sa création qui témoignait de son existence dans le visible. Dieu est partout, mais l'absence de nom le rendait impossible à concevoir dans un monde de matière. Voilà pourquoi Adam donnait des noms. Une véritable alliance et filialité existait entre le Créateur et sa création. C'est donc Dieu qui questionne l'homme en disant « Comment appelles-tu ceci et cela ?» Baphon répondit « Pourquoi faudrait-il que Dieu questionne, puisqu'il sait tout ?»« Oh, mais je pense que c'est parce que l'homme ne peut questionner un être supérieur. » Et voilà, il sait tout et pose des questions à l'homme pour l'empêcher de trouver des réponses. Comme Dieu n'est pas la réponse, mais l'origine de toute chose, nous perdons notre temps à le questionner. Il sait tout ce que sa création a besoin et intervient en temps et lieu. Je ne demande jamais pourquoi à la chose qui sait comment ordonner, sans qu'il puisse y avoir la moindre erreur dans sa volonté. Prenons comme exemple un nourrisson qui agite les bras en pleurant. Sa mère va-t-elle lui poser des questions, ou voir à lui prodiguer les soins appropriés? Plus tard, lorsque l'enfant peut s'exprimer, il commence à poser des questions et sa mère doit se contenter de répondre selon son niveau de compréhension sans plus. Lorsque l'enfant insiste tout de même pour comprendre ce qui le dépasse, sa mère lui dira simplement « parce que c'est ainsi ». Mais l'enfant veut savoir ce qu'il ne pourrait comprendre, même avec toutes les explications imaginables utilisées par sa mère. Alors, il insiste encore plus en répondant « parce que quoi ?» Sa mère va finir par lui raconter une vérité qui contentera l'enfant. Il s'endort sans comprendre davantage la nature de sa mère. Un jour ou l'autre, il la confronte en lui disant qu'il est assez grand pour agir sans elle. C'est ce qui arrive à l'humanité depuis des millénaires. Elle est en train de manger tous les fruits des connaissances et meurt d'indigestion. Sa mère va finir par devenir son dernier recours. Le vieil homme fixa tristement le ciel pour examiner passer des flèches atomiques. L'arbre des connaissances du bien et du mal était finalement la science, n'est-ce pas? Oh, si vous en doutez encore, regardez simplement le résultat de l'indigestion de tous ces fruits dans le ventre des scientifiques d'aujourd'hui, lui dit Baphon. C'est vraiment fascinant de voir comment les terriens sont en mesure de manipuler la nature pour son bien ou son mal. La science, c'est le mal alors. Oh, je devrais dire que le mal est devenu science. Voyez-vous le mal dans ces flèches atomiques, ou plutôt dans l'esprit de ceux qui les inventent pour détruire? Est-ce vraiment nécessaire de préciser que l'animal anime mal? Il faut donc que l'homme cesse de penser comme une bête intelligente s'il veut vivre sans chaîne. Le jeune homme caressa la toupie en silence, pendant qu'une main moite se posa lentement sur son épaule. Mercéur, s'exclama Bafon en se retournant. Oh, je suis passé faire un petit tour sur mon îlot intemporel afin d'y prendre le tube de Mégator, qui pourra te servir à faire la preuve que tu es vraiment l'enfant de la lumière. Regarde, je l'ai solidement fixé à ma taille pour ne pas l'échapper. Le gardien du musée ouvrit un manteau emprunté à un clochard défunt des environs et laissa voir le tube enfermé dans un contenant argenté. Le vieil homme se leva rapidement et s'éloigna en criant, qui voulait l'entendre, qu'un fou se promenait avec un tube d'uranium. Aussitôt, des voix crièrent autour de lui, « Un tube radioactif! Un tube radioactif !» Mercéure venait de semer le désordre et ne perdit pas de temps pour entraîner Bafon dans sa fuite. « Vite, il faut quitter ces ruines sans attendre. Les soldats ne tarderont pas à nous cribler de balles s'ils nous découvrent en possession de ce tube. » « Mais pourquoi tu compromis volontairement ma mission ?» demanda le jeune maître en courant à ses côtés. « Écoute, je n'avais pas le choix que de trouver une façon radicale d'annoncer notre présence sur Terre à la secte d'Alba. Je te parie que ces gens effrayés vont finir par raconter cette histoire à quelqu'un qui comprendra très vite que le jeune maître arcarien est ici. » Ainsi lui dit le jeune homme, en se laissant conduire derrière un talus de pierre. « C'est toi, mon frère, qui vas me livrer la secte. Je sais que tu le feras, pour m'éviter de reculer devant ma mission. » L'autre lui répondit, « Est-ce que la brebis a l'habitude de se jeter elle-même dans la gueule du loup ?» Mercure chercha à retenir ses larmes. J'ai demandé à ma mère Lumière de me donner le courage d'aller mourir entre les mains de cette secte noire, et je la remercie de m'avoir exaucé. Maintenant, c'est toi, Mercure, qui porte le lourd fardeau de cette mission salvatrice. Si je veux aller jusqu'au bout, c'est toi qui devras me conduire par la main pour me redonner du courage. Ah oui, du courage, lui répondit l'autre. Je me sens comme un Judas de la pire espèce, même si je comprends l'importance de mon rôle de ta mission. Je préférerais mourir à ta place, mais mon sang versé ne pourrait empoisonner Alba. Tu as raison, mon frère. Je t'en prie, réjouis-toi plutôt du résultat que j'obtiendrai en me sacrifiant pour libérer les terriens de cette secte abominable. Les grands maîtres ne pouvaient choisir un meilleur compagnon que celui qui possède encore ce pouvoir de réaliser un élixir dont a besoin Alba. Il te méprise comme tous les autres, mais tu es tout de même le seul être qu'il pourra écouter si tu lui proposes de rajeunir sa vieille peau millénaire. Oui, espérons que mon ancien patron voudra me considérer encore comme son fournisseur. C'est évident qu'il va se méfier de toi. Par contre, si tu me livres à lui comme un vulgaire puceron, Alba finira par te faire confiance. Tu vois bien que ta mission est encore plus délicate que la mienne. Oui, s'il ne boit pas ton sang, tu périras sans pouvoir le vaincre avec sa secte. Je le sais. Mais je souffre terriblement à l'idée de devoir jouer au Judas envers un être que j'admire comme le dieu Cupidon. C'est troublant de vivre un tel moment dans l'histoire du monde. Bafon lui répondit. Nous vaincrons Alba, et l'humanité revivra encore sans dépendre d'un tel empoisonneur. Puis, crois-tu que ma mère laisserait cette secte souiller son enfant? Crois-moi, tu es celui qui doit me vider de mon sang et meurtrir mon corps. Tes mains sont bénies par elle, pour ce grand sacrifice d'amour. Mercure pleurait dans ses mains, puisqu'il voyait déjà des scènes atroces, où il devrait agir de manière à convaincre Alba qu'il n'était plus un missionnaire du cœur, mais un malade comme lui. à chaque scène, qu'il visionnait mentalement, comme pour répéter un scénario de la fin du monde, il secouait lourdement la tête en gémissant. « Non, c'est trop cruel, pas ça, non. »« Ne te trouble pas de ce que je projette dans ta tête, mon pauvre ami. C'est moi qui te montre comment tu devras agir pour convaincre Albert de te faire confiance. » Je sais tout ce qui doit arriver à partir de maintenant, jusqu'à mon dernier souffle. Mercier lui dit, « Crois-tu qu'il faut autant de cruauté de ma part pour réussir cette mission? » Ces images se fixent dans ma cervelle comme des instructions précises. Elles m'horrifient, car ce n'est pas moi qui voudrais te faire autant de mal. Je sais cela, mon frère. Place ta tête sur mon épaule, comme le Christ l'a fait lorsqu'il souffrait sa passion. En vérité, c'est toi qui souffriras le plus, parce que moi, je vis déjà en dehors de mon corps. Il est comme ton instrument d'échange contre la confiance d'Alba. Je t'en prie, oublie que c'est moi que tu frapperas, que tu humilieras et que tu saigneras, puisque j'ai ce pouvoir de me libérer suffisamment de mon enveloppe charnelle. « Tu veux dire que tu ne souffriras pas ?»« Un peu, oui. Je vais souffrir jusqu'à une certaine limite, et ensuite je serai simplement témoin de ce que tu feras subir à mon corps. Souviens-toi de cela lorsque tu hésiteras à me frapper. »« Tout de même, ce n'est pas normal de frapper un être aussi bon que toi. »« C'est justement ce que tu dois éviter de penser, » lui dit Bafon. Alba va t'observer et se laisser tromper dans la mesure où il sera convaincu que tu me détestes autant que lui. Est-ce qu'un bourreau, un tortionnaire ou un sadique hésite à faire mal à sa victime? Non, il en prend un plaisir inouï. C'est cela que ton ancien patron cherchera à voir dans tes yeux et dans ton comportement à mon égard. Bafon sourit ensuite au missionnaire en disant ironiquement, tu avais raison de croire que des gens iraient rencontrer la secte d'Alba pour l'informer de ma présence sur Terre. Les grands maîtres savent à présent où nous conduire pour être à proximité du temple secret de cette secte. Le couloir intemporel va nous emmener dans un désert. Ils disparurent juste au moment où quatre soldats s'approchaient derrière eux sans faire de bruit. Bafon et Mercier leur échappa sans qu'ils puissent expliquer ce miracle. Ce n'était pas en Palestine que se trouvait le temple secret de la secte d'Alba, puisque ce lieu était trop peuplé pour être sécuritaire. Le meilleur site était le désert Roba el-Khali, situé en Arabie Saoudite. Pourquoi cet endroit plutôt qu'un autre? C'était uniquement à cause de sa situation géographique. Il n'était pas tellement éloigné de l'Europe, de l'Afrique, de la Chine et de la Russie. La secte savait parfaitement que les grands combats du 21e siècle se passeraient dans ce désert. En effet, les nations ennemies se préparaient à la plus grande guerre sanglante universelle en déployant toutes leurs forces militaires dans cet endroit du globe. Il fut choisi par Alba lui-même, car il voulait voir les derniers humains s'exterminer dans son royaume de sable. Pour forcer les nations du monde à envoyer leurs soldats dans le Roba el-Khali, la secte s'est servie uniquement de son influence pour laisser croire à l'invention d'une arme capable de ralentir la force gravitationnelle de la Terre. Pris de panique, les pays cherchèrent tous à devenir l'unique détenteur d'une arme totalitaire. Elle devait se trouver sous les sables de ce désert, et même à la disposition de la nation qui saurait être assez puissante pour s'en rendre maître, pour se rendre maître de ce lieu. Bafon et Mercier étaient au courant de cette folie mondiale qui allait finalement se terminer dans ce désert. Les deux voyageurs apparurent à quelques lieues seulement des terribles combats. Pas moins de 300 millions d'hommes et de femmes armés se battaient au désert, soit la moitié de toute la population mondiale. Il serait inutile de décrire cet enfer de feu et de sang. Bafon se fiait sur Mercier pour découvrir le refuge de la secte, et surtout pour y entrer après avoir été livré par son compagnon de route. Sur Arkara, le peuple entier priait et pleurait, car le grand prêtre Minote avait joué les mains en disant d'une voix tremblante, « Bafon voit pour la dernière fois
le soleil se lever sur terre.